Bonjour à chacun et à chacune. Je vous souhaite la bienvenue à vous qui écoutez le culte depuis des années et à vous qui nous rejoignez pour la première fois, qui êtes dans cette salle ou derrière votre écran. Diana va lire le psaume 105 du verset 1 à 5 et après je laisserai la parole à Xavier et à son équipe pour deux chants, « Bénis l'Éternel » et « Lumière du monde ».
Psaume 105, versets 1 à 5. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur. Célébrez toutes ses merveilles, placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements.
Thank you.
J'ai une question à vous poser. Êtes-vous en été, en automne, au printemps, en hiver? Dans quelle saison êtes-vous? Pour ma part, j'arrive gentiment au printemps. Je peux enfin redire « je vais bien ». Il y a 2 ans, mon corps a lâché. Ma vie s'est arrêtée. Je me serais retrouvée avec des rendez-vous de médecins, une perte d'emploi et j'en passe. Je savais que les liens sociaux que je pourrais avoir me permettraient d'avancer, de garder le cap. J'ai toujours été bien entourée, d'abord par mes enfants, ma famille, des amitiés et par l'Église. Je suis allée faire le tour des médecins. J'ai eu beaucoup de questionnements en lien avec mon état physique. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à tout, mais je sais que le printemps arrive et que pendant cette saison hivernale, je me suis musclée spirituellement grâce à la lecture de la Bible quotidiennement, par la louange et par l'adoration. Dieu a été présent à chaque instant, même lorsque je baissais les bras. Je peux dire que lors de cette période, je n'ai jamais été autant en période estivale spirituellement. Quand nous sommes dans l'épreuve, ne nous attendons pas à ce que Dieu transforme nos circonstances. Il le fait rarement. Il nous accompagne pour les traverser et nous donne la force de les assumer. Je vais lire une méditation sur une salle d'attente. J'aimerais que vous puissiez vous identifier à cette salle d'attente lors d'épreuves diverses et pas seulement pour des soucis de santé. La salle d'attente. Nous avons tous entendu des personnes employer l'expression « en attendant » lorsqu'ils sont dans l'expectative de quelque chose. Bien que nous patientons dans la salle d'attente, cette attente d'être guéri ou bien de vivre un miracle est bien souvent cruelle, n'est-ce pas? Alors que nous devons faire en attendant, comment gardons-nous la foi et la confiance que Dieu est à l'œuvre lorsque nous ne voyons rien venir? Voici quelques suggestions qui permettent d'attendre pendant nos luttes. Louez-le dans votre souffrance. L'une des choses les plus importantes que nous pouvons faire lorsque nous souffrons est d'adorer Dieu. Il en est quotidiennement digne. Lorsque nous pensons à tout ce qu'il fait pour nous et à l'éternité que nous passerons avec lui, comment ne pas le reconnaître? Concentrez-vous sur les attributs de Dieu, infini, éternité, toute puissance, bonté, miséricorde, noblesse et omniprésence tout le temps. Nous donnons à Dieu gloire et louange avant de sortir de l'épreuve ou de recevoir le dénouement que nous désirons. Deuxième point, continuez les haltères. Au milieu de cette souffrance, il se peut que vous ne voyez que votre faiblesse et non les muscles spirituels que vous développez ou la force que vous acquérez. Mais à chaque fois que vous priez, louez, lisez la parole de Dieu et placez votre confiance à ses promesses, votre esprit se renforce. C'est dans notre faiblesse que sa force est rendue parfaite. Beaucoup disent que les épreuves nous construisent ou nous détruisent. Soyez certains que les vôtres vous construisent. Troisième point, épanchez votre cœur. Toute la souffrance que vous endurez n'effraie pas Dieu. Il peut parfaitement faire face à vos interrogations, vos peurs et même votre colère. Continuez à venir à lui. Les épreuves peuvent nous amener à nous attacher à Christ ou à le fuir. Attachez-vous à lui. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi cette difficulté est encore présente dans votre vie. C'est à ce moment-là qu'il faudra mettre en pratique la vérité que vous avez apprise lorsque les temps étaient moins durs. C'est un abondant et une confiance de chaque jour. Le quatrième point, garder l'éternité à l'esprit. Lorsque nous devons garder nos regards fixés sur l'éternité, lorsque nous nous concentrons sur ce qui est visible, nous nous intéressons uniquement aux choses temporaires. C'est l'invisible, la façon dont Dieu est à l'œuvre en coulisses, qui est l'éternité. Dieu accomplit cette œuvre en nous, à travers nous, pour nous, mais aussi avec nous. Faisons preuve de patience en voyant se réaliser son plan parfait. Lorsque vous devez supporter les nombreuses visites en salle d'attente, n'ayez pas peur de regarder en arrière afin de constater vos progrès, parce que vous en avez fait. Et puis continuez à franchir l'étape suivante. Vous ne savez jamais quand vous allez vous réveiller et voir une percée dans vos nuages spirituels de basse attitude. Le jour où pensez ne plus pouvoir avancer est peut-être le jour de votre percée. En point de réflexion, lorsque vous vous trouvez dans cette salle d'attente, au cours de votre vie, demandez à Dieu de vous montrer un signe qu'il est à l'œuvre en vous, à travers vous, chaque jour. Je vais prier pour Philippe. Seigneur Jésus, j'aimerais vraiment te remettre Philippe entre tes mains. Te remettre vraiment tout ce qu'il a à nous dire. Merci pour ton serviteur, merci pour qui il est, pour ce qu'il nous transmet. Permets que tu puisses vraiment ouvrir nos cœurs, qu'on puisse être à ton écoute. Qu'aujourd'hui tu puisses vraiment mettre quelque chose de nouveau dans notre cœur, à germer pour cette semaine. Merci parce que jour après jour, tu es là avec nous. Amen.
Bonjour à chacun, chacune. Merci Mélodie pour la présidence, Diana pour la lecture, Xavier, Jean-Christophe, Isako pour l'accompagnement musical. C'est précieux, hein, ces cultes soigneusement préparés pendant plusieurs jours, mûris. Merci à celles et ceux qui fidèlement s'investissent. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Brigitte. Que le Seigneur te garde. Qu'il soit ta force, ton bouclier, un bon anniversaire. Vous aurez l'occasion de la saluer. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous fêtons aujourd'hui le dimanche des rameaux. La décoration préparée par Denise nous le rappelle. Regardez ces magnifiques rameaux. C'est la deuxième année consécutive, hélas, que nous ne pouvons pas célébrer ce culte, les trois communautés chrétiennes de Mérin. Nous espérons que l'année prochaine, nous y reviendrons. Mais nous sommes en communion de pensée avec nos autres frères et sœurs qui célèbrent aussi aujourd'hui ce beau dimanche. Nous sommes, nous, des gens en route, des pèlerins. Vous et moi, nous sommes des gens en marche. Et dans cette marche, pour cette marche, le Saint-Esprit agit en nous pour produire, j'espère, de beaux fruits. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Galates 5, versets 22 à 23. La loi ne condamne pas de telles choses. J'aime beaucoup la fin de cette phrase, parce que c'est une figure de style assez prisée des Anglais. On appelle ça une litote. On dit le moins pour signifier le plus. La loi n'est pas contre la loi. Elle est pour. Et nous voilà donc en plein dans notre sujet du jour, dans la poursuite de notre méditation de la première de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, progresser dans l'amour fraternel. Progresser dans l'amour fraternel. Si vous n'étiez pas là ces derniers dimanches, je vous rappelle les grandes lignes qui permettent de comprendre pourquoi l'apôtre Paul écrit à deux reprises aux chrétiens de Thessalonique. C'est l'une des toutes premières églises, en tout cas sur le continent européen. Elle a été fondée juste après l'église locale de la ville de Philippe. Paul, à Thessalonique, a annoncé l'évangile pendant trois semaines, trois sabbats, trois samedis au cœur de la synagogue. Puis, pendant quelques semaines, quelques temps encore en ville. Mais ensuite, il a été chassé de la ville. Et il a appris que les chrétiens étaient exposés à une certaine hostilité, la persécution. Les juifs convertis étaient pris pour cible par leurs propres compatriotes. Mais surtout, les grecs convertis de la ville de Thessalonique étaient visés, eux, par ceux qui ne supportaient pas qu'ils adorent plus les dieux, qu'ils assistent plus aux fêtes païennes. qu'ils mettent le Seigneur Jésus au-dessus des empereurs romains. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Inquiet au sujet des nouveaux chrétiens, inquiet au sujet de la vie de l'église de Thessalonique, Paul envoie alors Timothée. Il l'envoie pour prendre des nouvelles. Puis, Paul leur écrit. Et là, il les félicite. Il les félicite de tenir bon au milieu des épreuves. Il rappelle ce qu'il a été pour eux, au milieu d'eux. Et il les félicite de ce que ces chrétiens de Thessalonique manifestent concrètement, leur foi, leur amour et leur espérance. Mais il dit aussi, au chapitre 4, à plusieurs reprises, qu'ils peuvent progresser encore. Et voici donc ce qui nous concernera ce matin, ce qu'il est dit au sujet de l'amour fraternel. Et je relis ce texte qui va encore nous accompagner pendant quelques semaines après la séquence de Pâques, 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 12. Frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Certes, vous vous conduisez déjà ainsi, mais maintenant, nous vous le demandons avec insistance et au nom du Seigneur Jésus, faites mieux encore. Vous connaissez en effet les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous viviez pour lui et que vous vous gardiez de la débauche. Que chacun de vous vive avec sa femme d'une manière honorable et digne du Seigneur, sans se laisser dominer par les désirs passionnés, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ces affaires que personne ne cause du tort à son prochain, ni ne porte atteinte à ses droits, nous vous l'avons déjà dit et nous vous avons sérieusement averti, le Seigneur fera justice de tout cela. Dieu ne nous a pas appelés à vivre de façon indigne, mais à vivre pour lui. C'est pourquoi celui qui rejette ses prescriptions ne rejette pas un être humain, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. En effet, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est d'ailleurs cet amour que vous manifestez envers tous les frères et les sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à faire mieux encore. Ayez pour ambition de vivre en paix, de vous occuper de vos propres affaires et de gagner votre vie de vos propres mains, comme nous l'avons déjà recommandé. Votre conduite suscitera ainsi le respect des personnes qui n'appartiennent pas au Christ et vous ne serez à la charge de personne. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Faites toujours plus de progrès. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. Et là, Paul va pointer trois domaines où la sainteté doit se manifester. Dans quelques semaines, nous verrons peut-être ce qu'il dit sur le travail, sur la vie en société. Il y a 15 jours, Célina nous a parlé du rapport au corps, le nôtre de corps et celui de nos prochains et prochaines. Et puis nous reviendrons probablement encore un coup sur la question de la sainteté dans la vie sexuelle. Mais pour ce matin, nous voulons juste voir le progrès dans l'amour fraternel. Ça coince, mais c'est pas grave. Est-ce que Roxane, toi, t'arrives à nous avancer? Tac, encore un coup? Merci beaucoup. Roxane, tu assures. Merci. Je suis un peu curieux, donc je vais vous poser une question et puis je compte sur vous. Quelle idée nous faisons-nous de la sainteté? Si on faisait un jeu avec association d'idées, quel mot sortirait spontanément quand je vous parle de sainteté? Quelle idée nous faisons-nous de la sainteté? Quel mot en association d'idées? Quand je nous dis ce matin sainteté, vous pensez à quoi?
Inaccessible.
Inaccessible. On y est. Inaccessible. Merci, Denise. Tu as lancé les bonnes hostilités. Autre idée?
La sagesse.
La sagesse. OK. Waouh, la sagesse. Sainteté, sagesse. La sagesse pour être saint ou c'est sage d'être saint? Les deux, peut-être?
Les deux.
Merci. Une autre idée?
Blancheur.
Waouh, blancheur, d'accord. Comme Ariel, lave plus. Non. Merci. La blancheur. L'idée de pureté, c'est ça, Claude? Ouais. Une autre idée?
La perfection.
La perfection. La perfection. Vas-y, Nicolas, j'ai entendu un truc.
Le pape
est saint. Je ne suis pas sûr que lui-même se définit comme ça. Autre idée. J'ai eu des trucs forts, hein, que je n'avais même pas noté moi. Moi, j'ai noté 2-3 idées pour moi, mais allons-y.
La bienveillance,
donc la sainteté, c'est la bienveillance. OK. Moi, quand j'entends parler de sainteté, et puis j'en entends parler depuis un petit bout, hein, quand on est tombé dans la marmite, quand on est petit, c'est un sujet qui vient vite au devant de la scène. Hein. Sainteté. Moi, au début, quand je réfléchis à ce terme, je pense à des mots alors, très proches de ce que Denise t'évoquait, mais comme renoncement. Être saint, c'est renoncer. Ou un mot comme discipline. Ou sévérité. Les saints, c'est des gens sévères. Sauf le pape François. Ou la tristesse. Sont tristes, les gens saints. Est-ce que la personne qui devient plus sainte devient moins humaine? Ah, inaccessible. Est-ce que quand on vise la sainteté, on cherche la sainteté, puis là, on y est invité, je veux dire, c'est quand même assez ferme, hein, sous la plume de l'apôtre Paul, est-ce que la personne qui devient sainte devient moins humaine? Est-ce qu'elle se prive des joies de vie? Est-ce qu'être des saints et des saintes, c'est se priver des joies de la vie? Pire, est-ce que les gens saints passent leur temps à regarder de haut celles et ceux qui n'obéissent pas aux supposées règles de sainteté? Parce que c'est souvent ce qui a été véhiculé comme image de la sainteté par les chrétiens. On regarde de haut ceux qui ne correspondent pas à nos standards en matière de sainteté. La preuve que cette vision de la sainteté est archi-fausse, elle est super facile à trouver. Elle porte même un nom. C'est Jésus. Jésus. Les joies de la vie. On l'accusait d'être un bon vivant, de fréquenter des fêtards, de boire et de manger même quand d'autres jeûnaient et que la sainteté aurait voulu qu'ils jeûnent. Les supposées règles de la sainteté, ben il les balaye, il les balaye. Les règles sur le lavement des mains, les règles sur le sabbat, les règles sur les personnes à ne pas fréquenter, à ne pas toucher, les règles sur les règles, il les balaye. Et en même temps, ben, saint, il l'était, assurément. Sinon, il faut qu'on change de crèmerie. Et il était plus humain qu'aucun de nous. Parce que lui n'était pas handicapé par le péché. Saint et humain. Regardez-le alors, manger avec des collecteurs d'impôts. Regardez-le manger avec des pêcheurs de toutes sortes, nous disent les évangiles. Moi, je suis frappé de voir que Jésus n'avait pas besoin de confirmer ces gens dans ce qu'ils étaient. Il n'y avait pas de militantisme. Mais en même temps, il n'avait pas besoin de les exclure pour ne pas se montrer en accord avec eux. Et je vous propose qu'il y a là une piste dans notre rapport à la sainteté. En regardant Jésus, pas besoin de militer, mais en même temps, pas besoin d'exclure. Ah, on est sur une corde raide, hein, quand on pense à ce que nous mettons comme règle de sainteté. Pas besoin de militer, pas besoin d'exclure. Et cela nous donne quoi alors, comme image de la sainteté ? Eh bien, il fait à Cana en Galilée des centaines de litres de bon vin. Il est allé au-devant des exclus pour les accueillir, pour les guérir. Des lépreux, une femme malade, en corrompu du nom de Zachée, des étrangers sans droit de cité, il a aimé et il a accueilli. Non sans fermeté, parfois. Il faut voir les conflits avec certains pharisiens. Ça pète avec les religieux. Hein. Mais toujours dans le désir de faire progresser ses disciples si lents à comprendre. Toujours dans le désir d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Toujours dans le désir de défendre la vérité de Dieu contre ceux qui déformaient cette vérité. Toujours dans une éthique de service et de valorisation de l'autre. L'apôtre Paul aux Galates dira que l'amour est le résumé de la loi et que cet amour est le fruit du Saint-Esprit. Si donc, nous, aujourd'hui, nous voulons progresser dans la sainteté, bien sûr qu'il faut nous abstenir du mal sous toutes ses formes, bien sûr. Mais surtout, nous dit Paul et nous dit Jésus, il nous faut progresser dans l'amour. C'est par l'amour, dit Jésus, que ses vrais disciples seront reconnus. Par l'amour. S'il faut aimer son prochain comme soi-même, s'il faut aimer ses ennemis, à plus forte raison faut-il aimer ses frères et sœurs en Christ. Et c'est là le deuxième domaine où Paul nous dit « Faites encore mieux », versets 9 et 10, « dans votre amour les uns pour les autres ». Paul affirme que les chrétiens de Thessalonique n'ont pas besoin d'instructions écrites à ce sujet. Il n'y a pas besoin de faire tout un catéchisme sur l'amour fraternel dans l'église de Thessalonique, parce que Dieu lui-même leur a appris à s'aimer les uns les autres. Évidemment, parce qu'à la conversion, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et n'empêche que Paul ajoute... Mais nous vous invitons à faire toujours plus de progrès. On n'a pas besoin de vous expliquer la donne, vous savez, vous avez compris, vous avez reçu, vous le faites déjà, mais faites encore des progrès. Et je trouve, moi, quand je lis cette insistance, que cette insistance est significative quand on le met en face de certaines attitudes concernant l'Église. Là, il parle de l'amour fraternel dans l'Église. Si on vient à l'Église en dilettante, l'amour fraternel, il ne se développe pas. On va, on vient au gré de ses envies, sans connaître ses frères et sœurs, et puis sans se laisser connaître par eux. Car pour aimer comme l'apôtre nous y invite, il faut passer du temps ensemble. Il faut porter des projets ensemble. Il faut prier ensemble. Il faut manger ensemble. On est loin de l'esprit de consommation. On est dans celui de l'implication. À Thessalonique, au début de la lettre, Paul les félicite, vous vous rappelez, verset 3, chapitre 1, verset 3, il les félicite pour leur amour actif. Littéralement, le travail de leur amour. Eh ouais, l'amour, ça se travaille. Nous ne sommes pas là dans un truc mièvre, nous ne sommes pas dans le clubisme, nous sommes en présence d'un amour qui se travaille et qui se manifeste très pratiquement. On peut adhérer à une philosophie sans aimer. On peut adhérer à un parti politique sans aimer. Il n'y a qu'à voir comment il se déchire. Hein ? Mais sans aimer, on ne peut pas adhérer à ce corps vivant qu'est l'Église. On peut travailler dans une entreprise sans s'occuper le moins du monde de ses collègues. Mais en Église, ce n'est pas possible. Parce que nous nous appartenons les uns aux autres. Nous sommes membres d'un corps. Vous voyez donc l'importance de ces moments de convivialité que nous organisions de temps en temps. Et l'intensité du manque actuellement. L'intensité du manque. L'importance des groupes de maison, des groupes de travail, des colloques, de la mise en commun, l'importance de se téléphoner, de s'inviter, de porter certains fardeaux ensemble. Ce n'est donc pas, j'ai été au culte et puis je peux cocher la case Dieu pour cette semaine et maintenant je m'occupe de moi. C'est plutôt, je viens adorer Dieu avec mes frères et sœurs. Je resserre les liens de famille. Je mets en pratique ce que Jésus a enseigné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et puis toute la semaine, je continue à les aimer. Je prie pour eux, puis j'ai du plaisir à les voir. Et ça, mes amis, je vous propose que ce n'est pas une option. C'est une priorité. Et puis s'il y a des blocages, parce que l'amour est heureux, parce que l'amour est coûteux, s'il y a des blocages parce que de temps en temps on se prend la tête, on se mange le nez, on s'envoie un truc un peu difficile, alors il faut prendre le temps de s'écouter, de se comprendre, de transcender les différences, parfois de se réconcilier s'il faut, et puis de pratiquer la bienveillance envers tous et toutes. Maintenant, réfléchissons à ce qui pouvait rendre l'amour difficile à Thessalonique. Pourquoi ça pouvait être compliqué pour cette petite église de Thessalonique ? Alors là, je suis conscient que je vais lire un peu entre les lignes, pas trop, je crois, mais un peu quand même. Et puis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Il me semble qu'une des choses qui pouvait rendre l'amour fraternel difficile à Thessalonique, c'était d'abord la persécution. Alors bien sûr, Thessalonique, ce n'était pas l'Iran. Hein. Ce n'était pas les dragonnades, ce n'était pas les galères. Mais la tentation dans cette église de Thessalonique pouvait être de se dire « Je veux protéger ma situation sociale. » Je veux garder mes clients. J'évite de trop fréquenter les chrétiens. Dans certains pays, aujourd'hui, le risque d'avoir dans l'Église des espions, des informateurs, des traîtres, fait que l'on se méfie de ses frères et sœurs. On ne se livre pas. C'est le cas, par exemple, en Afrique du Nord, ou en Corée, ou en Iran. De tout temps, dans les réseaux clandestins, on limite le nombre de personnes qui savent pour limiter le risque de fuite et de trahison. Alors, Thessalonique, ce n'était pas une église clandestine. Hein. Mais j'estime que la tentation de s'isoler, elle était là. Dans un contexte de persécution, justement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, dans le contexte de la persécution. « Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Hébreux 10, verset 25, dans un contexte de persécution. Il va même jusqu'à dire, tantôt vous avez été exposés publiquement aux injures et aux mauvais traitements, tantôt vous vous êtes rendus solidaires de ceux qui étaient traités de cette manière-là. Verset 33. Les chrétiens doivent être solidaires entre eux. Dans notre tranquille église locale de Mérin, quand tel chrétien, telle chrétienne passe par un temps d'épreuve, montrons notre solidarité. Montrons notre solidarité. Et montrons-la bien au-delà de l'église locale. Ne tournons pas le dos à ceux qui souffrent. Ceux qui pouvaient rendre l'amour fraternel difficile, c'était d'abord l'hostilité générale, la persécution, un contexte tendu. On n'en est pas là. Qui peut le plus, peut le moins. Ensuite, ce qui pouvait peut-être rendre l'amour fraternel difficile, c'était les controverses doctrinales. Alors là, à Thessalonique, ce n'est pas les mêmes controverses qu'en Galatie sur la loi et la grâce, ou à Corinthe sur le comportement chrétien, ou plus tard à Philippe sur la désunion. Mais pour un sujet au moins, pour les Thessaloniciens, c'est le brouillard. Ça concerne le retour de Jésus-Christ. Quand va-t-il revenir? Est-il déjà revenu? Les nôtres qui sont morts, est-ce qu'ils ont raté l'enlèvement? Que devient un chrétien quand il meurt? Qu'est-ce que la résurrection des morts? Qu'est-ce qui retarde la venue de Christ? Et l'Antichrist, c'est qui? C'est quoi? C'est pour quand? Toutes ces questions agitaient les chrétiens de Thessalonique. Selon 2 Thessaloniciens 2, verset 2, toutes sortes de prophéties circulaient dans l'église de Thessalonique. Et pire que ça, des gens de mauvaise foi inventaient de fausses lettres apostoliques pour promouvoir leurs idées. Alors moi, j'y vois un parallèle avec certains débats animés que j'ai connus dans les années 80 et 90. Des auteurs évangéliques connus, influents, pieux, des fondateurs d'églises, des fondateurs de mouvements, des évangélistes qui traitaient ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux sur le millénium d'être des libéraux, voire d'être des antisémites. Chez nous, ces débats, et c'est heureux, ils ont perdu en intensité. Mais d'autres débats les ont remplacés, qui peuvent être vifs sur le parler en langue, sur la guérison, sur la prospérité, sur la création, sur les relations avec les chrétiens d'autres confessions, sur l'accueil des minorités, sur quantité de questions éthiques. Une église inclusive ou pas? À mon sens, le remède à ce genre de problème, quand de la controverse doctrinale vient dans l'Église, à mon sens, le remède à ce genre de problème, il est double. C'est d'une part la tentative d'un enseignement de qualité, régulier, systématique, accessible à tous. Et avec Célina, je peux vous dire qu'on a ça sur le cœur. Bien sûr que tout le monde ici ne sera pas conseiller ou pasteur, mais tous nous devons progresser vers l'unité de la foi, vers la maturité, et ça se fait selon Éphésiens 4, 11 à 15, grâce à l'enseignement de la parole. Il y a donc d'une part un enseignement de fond, une réflexion de fond, et puis d'autre part, il y a la bienveillance et la grâce. Vous en avez des exemples magnifiques en Romains 14 et 15 en particulier. Si tel frère, telle sœur n'est pas d'accord avec moi sur des règles de vie ou sur des points de doctrine secondaires, je pars du principe que nous voulons tous marcher avec le Seigneur, que nous connaissons tous en partie seulement et que l'unité est bien plus importante qu'un débat sur le sabbat ou sur le millénium. Je ne me laisse pas dominer et intimider par un frère ou une sœur, mais je n'essaye pas non plus de la dominer, elle, ou de le dominer, lui. Pour certaines doctrines, nous devons nous battre. Et le Nouveau Testament en donne des exemples très concrets. Le salut par la foi en Christ, la résurrection de Jésus-Christ, la pleine divinité de Christ, la pleine humanité de Christ. Mais sur d'autres sujets, l'enseignement de la Bible peut limiter les désaccords et l'amour fraternel doit dépasser les désaccords. J'arrive à ma conclusion. Ce matin, nous avons fait du chemin et j'espère qu'on pourra le poursuivre encore, par exemple, mardi soir, lors de l'atelier biblique en ligne, pour échanger sur ces sujets. Nous avons essayé de démontrer que l'amour et la sainteté sont inséparables, que l'amour fraternel est un élément essentiel dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, que vivre avec Dieu, c'est impossible sans se lier à ses frères et sœurs. Nous avons essayé de pointer deux domaines inhabituels où à Thessalonique, l'amour fraternel pouvait être menacé. L'hostilité, les combats doctrinaux. Pour conclure, je reviens à quelque chose de tout basique et de tellement beau. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est là toute la loi et les prophètes. Aimez vos ennemis. Ce que Jésus a enseigné, ben moi je l'ai trouvé nulle part ailleurs. C'est ce qui le rend si unique. C'est ce qui me fait m'écrier « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Perché sur un ânon, le roi de gloire qui vient nous aimer. Si nous sommes ses disciples, alors nous mettons nos pas dans les siens. Nous cherchons à progresser dans l'amour. C'était le 26 juillet 2016. C'est un peu ancien maintenant, mais ça m'a profondément marqué. Et ça reste très parlant pour moi aujourd'hui encore. Le 26 juillet 2016, le père Hamel a été assassiné dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Dans les heures, les jours qui ont suivi, les journalistes ont interviewé des autorités catholiques et de simples paroissiens. Sur place, à Saint-Étienne-du-Rouvray, ou bien sûr, comme toujours, à Paris. Dans beaucoup de religions, dans beaucoup de philosophies, dans beaucoup de systèmes politiques, on aurait parlé de haine ou de vengeance. Bien des politiques étaient heureux, eux, de parler de guerre des civilisations. Mais le peuple catholique, de l'archevêque de Rouen à la petite dame sur le parvis de Notre-Dame, le peuple catholique, en tout cas le peuple catholique pratiquant, était unanime. J'ai relevé cette phrase. Le Seigneur nous a appris à aimer même nos ennemis, et de cela, rien ne nous fera dévier. C'est l'amour qui fera que nous chercherons le bien de nos frères et sœurs dans l'Église et dans le monde. C'est l'amour qui fera taire les critiques, les murmures, les attaques. C'est l'amour qui nous fera sortir de notre préoccupation avec notre petite personne. C'est l'amour qui nous aidera à nous dévoiler un peu, qui nous fera fendre l'armure, qui nous fera vivre des relations profondes et vraies avec nos frères et sœurs. Pour l'ensemble du peuple qui se réunit le dimanche, c'est l'accueil, c'est le respect, c'est la bienveillance, c'est tout ce qu'on vit. Et pour les relations les plus profondes, ben ce sera dans des petits cercles, un apéritif autour d'une table en semaine, un petit groupe de maison, un groupe de bricoleurs, un conseil d'église, un groupe de recherche pastorale, que sais-je. Chers amis de Mérin, vous faites déjà très bien dans ce domaine. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vienne d'ici ou de là pour en parler. Mais malgré tout, faites encore des progrès. Faisons encore des progrès. Nous nous étonnerons nous-mêmes et je crois que nous étonnerons le monde qui nous regarde. Amen.
Après ce temps de prédication, j'aimerais vous proposer un temps de prière communautaire. Donc je vous laisse prier. J'aimerais vous proposer de vous lever et nous allons dire le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas, attention, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons avoir encore un chant, chaîne d'amour, et ensuite il y aura les annonces.
Bonjour. Alors, quelques annonces. Donc, pour cette semaine, alors mardi soir, comme Philippe l'a déjà dit, l'atelier biblique. Alors, je crois qu'il a posé un certain. Il a ouvert le débat. Il me semble qu'il y a pas mal de questions. Donc, pour ceux qui participeront, il faut déjà préparer les questions ou les remarques. Comme il a dit qu'on avait le droit de ne pas être d'accord avec lui. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, c'est le droit de lui dire, mardi soir. Vendredi, donc vendredi saint, il y a un office à la croix. À 18h, une heure de méditation, de partage, préparée par Eric, Henri et Philippe. Je crois qu'il y aura des inscriptions, alors il y aura le lien qui va apparaître. Dimanche prochain, dimanche de Pâques, culte avec Célina, et en respectant un protocole, on pourra prendre la Sainte Cène. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Comme Johan l'a dit dimanche dernier, l'Église vit par la contribution de ses membres, que ce soit par une contribution financière, mais aussi par les contributions pratiques. Alors, je rappelle que nous cherchons du renfort pour les équipes de nettoyage de nos locaux. Ces équipes fonctionnent à 4 ou 5 personnes. Pour la fréquence, C'est environ tous les 2 mois et demi, 3 mois. Bon, c'est mathématique, hein. Plus il y a d'équipes, moins notre tour revient souvent. Donc, il y a aussi une autre qui m'ont dit, mais moi, je ne sais pas, il faut qu'on me dise ce qu'il faut faire. Pas de souci, il y a quelqu'un qui explique comment ça se passe. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez le faire auprès de Claire-Lise Serex ou, si vous n'avez pas ses coordonnées, vous pouvez vous adresser à un des pasteurs. La garderie fonctionne de nouveau, mais pour ce service aussi, il y a besoin de volontaires. Alors, Anne-Claude Semon va envoyer cette semaine un doodle aux personnes qu'elle a sur sa liste, mais il faudrait quelques personnes de plus. Alors, si vous avez envie de rendre ce service, vous pouvez aussi vous adresser soit à Anne-Claude Semon, soit à des pasteurs, ou à moi, vous pouvez me poser la question. Donc, la garderie se passe plus dans les locaux, pour le moment, pas dans les locaux de la framboise, enfin de la garderie en bas, pour des raisons sanitaires. Donc, c'est dans la salle des Lucioles qui est en face. Mais il y a du matériel. Alors, voilà. Merci à ceux qui vont s'annoncer. Un petit compte-rendu du colloque qui a eu lieu vendredi. Donc, le week-end de l'Église est reporté à l'année prochaine. C'est un peu trop risqué pour cette année de reprendre. Donc, ce sera l'année prochaine. On a le temps d'en reparler, mais voilà, que vous le sachiez. Le groupe de jeunes, cet été, poursuit ses activités en cherchant différentes manières, diversifiées pour qu'un maximum de jeunes puissent participer. Il prévoit déjà le camp de ski de l'année prochaine. Alors, si vous avez envie d'aller faire la cuisine ou comme aide-cuisinier, ils seront très contents d'avoir votre annonce, vous annonciez. Il y a le temps, hein, mais voilà, ils y pensent déjà. Les comptes et le budget ont été approuvés. C'est vraiment une grande reconnaissance parce que les finances sont saines. Et le trésorier était très content parce qu'il y a une plus grande régularité dans les dons. Alors, c'est moins de stress pour lui. C'est beaucoup plus simple. On aimerait aussi remercier Michel pour tout son travail qui est vraiment important et qu'il fait d'une manière très, très consciencieuse. Et c'est vraiment aussi une reconnaissance pour nous. Alors, merci à lui. Il y a des projets pour cette année, hein, 2021. L'année passée, voilà, tout est tombé. Mais il y a des projets, il y a des idées qui viennent. Alors, comme une image chère à notre président, c'est un chantier. L'Église est un chantier. Voilà, il aime cette image avec des grues, ça veut dire que ça bouge. Donc, il y a des idées. Mais pour que ces idées puissent se concrétiser, ça ne pourra pas se faire qu'avec le conseil et les pasteurs. Il faudra que chacun participe, propose des idées et se propose de les mettre aussi en place avec l'aide du conseil et des pasteurs, bien sûr. Alors, c'est sûr que maintenant, il y a toujours la situation sanitaire qui pose quelques questions, mais ça va finir par s'arranger. Donc, voilà, on pense aux idées. Chantal, encore une annonce.
Vendredi, c'est ici ou bien c'est en Zoom? Vendredi
prochain. Ah non, c'est ici.
L'office à la croix,
c'est ici, mais il faut s'inscrire. Oui, oui, ça se passera dans cette salle. Oui. Je pense que c'est un peu difficile parce qu'on ne pourra pas savoir combien il y a de personnes qui sont là. Et puis je pense que on doit quand même respecter un protocole qui est strict. Alors je pense que c'est. Non, mais on ne peut pas.
C'est...
Ça, c'est, ça, alors, ça, c'est aussi la question. Les gens qui s'inscrivent, c'est vrai que... Essayons de s'inscrire si on est sûr de pouvoir venir. Et puis, on a vu, là, cette semaine, jeudi, c'était déjà plein. Après, il y a des personnes qui peuvent pas venir. Donc, essayons de... Si vraiment, vendredi, samedi, on voit qu'on peut pas venir, de se désinscrire et de laisser la place à d'autres. On envisage, mais il faudra voir combien de temps... Cette situation dure si il faut faire deux cultes. Mais ça veut dire que pour avoir deux cultes, il faut avoir des équipes qui peuvent assurer deux cultes. Et c'est des... Voilà. Oui, mais voilà, on a un protocole. On essaie de, vraiment de respecter le protocole qui nous est imposé. Il ne faut pas avoir de problème, donc non, je pense que c'est, voilà, c'est possible.
Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je vais juste vous faire un tout petit résumé du groupe de recherche du Conseil, qui, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi et à qui j'ai présenté déjà tout ça en Assemblée générale. Donc, après la validation de notre groupe, donc le GRC en février par les membres de l'EEM, nous nous sommes mis au travail. Je rappelle juste qui fait partie de ce groupe. Philippe Cornu, André Fagioni, Roger Aniguer, Brigitte Quilia, Ludovic Maremoto, Pauline Meyer et Chantal Rosset. Donc, on devrait normalement présenter les candidatures d'ici le mois de juin 2021, mais vu la situation sanitaire, ça ne sera pas possible. Donc, ce sera plutôt au mois de septembre, fin septembre même. Et dans un premier temps, on a contacté tous les membres actuels du comité pour savoir s'ils voulaient ou non se représenter, pour savoir quelle serait la demande de gens qu'on devrait rechercher. Et puis, dans un deuxième temps, on a constitué des binômes et nous allons rencontrer tous les membres du Conseil pour qu'ils nous donnent leurs impressions et leurs attentes pour le futur. Ensuite, nous allons envoyer à tous les membres de la communauté, donc à vous tous, une lettre explicative dans le courant du mois d'avril, accompagnée d'un questionnaire dans lequel vous pourrez noter une ou plusieurs personnes que vous souhaiteriez voir faire partie du Conseil, avec chaque fois des attributs ou des qualifications qui pourraient faire que vous souhaiteriez telle ou telle personne plutôt qu'une autre. Donc, ce document vous sera envoyé dans le courant du mois d'avril par mail ou par courrier pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail. Et bien entendu, si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite faire une candidature spontanée, il sera le bienvenu. C'est souvent difficile de trouver du monde pour le travail du Conseil. Et suite à vos retours, nous allons ensuite établir une liste des candidats et ce sera à vous, dans le courant du mois de septembre, de voter nominativement pour les différents candidats. Bien sûr que cette tâche requiert du discernement et pour que les candidats ne soient pas choisis pour des raisons affectives, mais bien pour leur qualité compatible avec les charges requises. Et c'est pour ça que nous demandons vos prières pour ce qui va être fait. Bien sûr, nous tenons aussi à disposition pour tous ceux qui ont des questions. Et en dernier lieu, je profite d'avoir le micro pour vous dire qu'on a de nouveau eu l'autorisation pour le stand de Pâques dans les rues basses. Donc, pour tous ceux qui seraient intéressés déjà pour prier, donc nous allons conduire le stand le jeudi 1er avril et le samedi 3 avril, donc jeudi et samedi prochain. Et pour tous ceux qui seraient intéressés à venir passer une heure ou deux au stand, merci de nous contacter, Jacques ou moi, et on vous accueille très volontiers. Il faut toujours... assez de monde, on fait des plages de 1 à 2 heures par personne. Mais on se soumet surtout à vos prières pour ce service.
Il vous reste 45 minutes pour aller voter si vous ne l'avez pas fait par correspondance. Mais avant cela, j'aimerais nous envoyer dans cette nouvelle semaine. Je vous invite à vous lever avec ce texte encore de l'apôtre Paul en Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts et agissez en tout avec amour. Que votre semaine soit douce sous le regard du Seigneur avec son accompagnement. Allez dans la paix et dans la joie. Amen.